Cérès. Cérès, connu depuis 1801, fait partie de la ceinture d'astéroïdes localisée entre Mars et Jupiter. D'un diamètre d'environ 950 km, elle accomplit une rotation autour du Soleil en 4,6 années terrestres. Sa masse est de 9,445 multipliée par 10 puissance 20 kg et elle présente une rotondité qui a joué en sa faveur pour son adoption au rang de nouvelle planète du système solaire, décision de l'Union astronomique internationale en août 2006. Son statut officiel est celui de planète naine. Jupiter. Digne du nom du roi des dieux, Jupiter est la plus énorme planète de notre système solaire, environ 1000 fois plus grosse que la Terre. Elle possède à la fois des anneaux invisibles depuis la Terre et 16 satellites. Constituée principalement d'hydrogène et d'hélium, Jupiter est une gigantesque masse gazeuse agitée par une zone de tempête appelée la Grande Tache Rouge, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La surface est également parcourue par des éclairs géants et des aurores boréales comme la Terre en connaît quand il y a une interaction entre le champ magnétique de la planète et les bombardements de particules provenant du Soleil. L'anneau de Jupiter, composé de minuscules particules de poussière, entoure la planète. Il est large d'environ 6500 km pour une épaisseur d'environ 10 km. Jupiter possède 4 lunes, Amalthée, Io, Europe, Ganymède.
Le saviez-vous, la planète perdue. Les astronomes s'interrogent sur une bien étrange situation. Il y a, entre Mars et Jupiter, plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes qui tournent autour du Soleil. Cérès, le plus grand, a un diamètre d'environ 1000 km. L'ensemble est appelé la ceinture d'astéroïdes. Les hypothèses se multiplient à son propos. Une planète en cours de formation qui ne serait pas encore parvenue à sa masse critique? Une planète de grande taille qui, à un moment de son histoire, serait entrée en collision avec Jupiter? Frappée par une météorite géante, comme on en trouve la trace à la surface d'autres planètes de notre système solaire? Elle aurait, selon des astronomes russes, pu être victime d'une implosion provoquée par des éruptions volcaniques à l'échelle de la planète entière, entrant en contact avec les masses d'eau des océans. À défaut de preuves de son existence, la planète perdue a tout de même trouvé un nom. Phaéton, du nom du malheureux qui voulut conduire le char de son père le Soleil, en perdit le contrôle, embrasant ciel et terre avant d'y perdre la vie.
Saturne. La sombre Saturne est après Jupiter la plus grosse planète du système solaire. Seule planète avec une densité inférieure à l'eau d'environ 30%, elle est dotée d'une atmosphère composée surtout d'hydrogène. Sa particularité est d'être en permanence balayée par des vents d'une extrême violence qui dépassent 1800 km/h. Elle tourne très vite sur elle-même, en une dizaine d'heures. Le fait le plus remarquable, ce sont ses anneaux, deux très lumineux et un troisième qui l'est moins. Perçus comme des anneaux uniques, ils sont en réalité composés de centaines d'anneaux plus petits. Il pourrait s'agir des débris d'anciens satellites de Saturne. Un fait intrigue fort les astronomes. Au lieu d'être composés de seule poussière, ils comprennent une quantité importante d'eau sous forme de véritables icebergs ou de masses plus petites de la taille d'une boule de neige. Uranus. Découverte par William Herschel en 1781, Uranus est la troisième plus grosse planète du système solaire. Composée d'hydrogène et d'hélium pour l'essentiel, elle est entourée d'une couche de méthane qui lui donne sa couleur bleutée. Elle se caractérise par une inclinaison prononcée, surprenante, peut-être consécutive à une collision avec une météorite ou un corps astral pendant la formation du système solaire. Uranus est entouré d'anneaux dont 9 sont connus. L'anneau extérieur, le plus brillant, nommé Epsilon, est pour l'essentiel composé de blocs de glace de quelques mètres de diamètre. Il est maintenu dans ses limites par 2 lunes d'Uranus, Cordelia et Ophelia, de par leur force d'attraction gravitationnelle, phénomène connu sous le nom de satellite berger ou satellite gardien de l'anneau. Neptune. Découverte par Johann Gottfried Galle en 1846, Neptune est encore une planète gazeuse géante 60 fois plus grosse que la Terre. Si, à l'extérieur, Neptune est composé d'un mélange de gaz chaud composé d'hydrogène, d'hélium et de méthane, qui lui donne sa couleur bleue, à l'intérieur, le cœur de Neptune est fait de roches fondues, d'ammoniac, de méthane, liquide et d'eau. Neptune est parcouru, comme Jupiter, par de violents ouragans rendus manifestes à sa surface par la présence de taches noires. La plus importante d'entre elles, la grande tache sombre, est de la taille de la planète Terre. Ces taches se déplacent à la surface de Neptune, accompagnées de vents d'une violence inouïe, atteignant les 2000 km/h. Neptune est entourée de 4 anneaux, faits de particules de poussière de taille infime, provenant du choc de météorites sur la surface des satellites de Neptune.
Le saviez-vous ? Le feu sous la glace. Neptune est entourée d'anneaux et possède un certain nombre de lunes ou satellites. La plus grosse est Triton. Un monde si glacé, où la température est de moins 235 degrés Celsius, son atmosphère a gelé en surface. Paradoxalement, Triton est le siège d'une intense activité volcanique, manifestée par des éruptions de gaz et de poussière. Lune devenue folle, l'orbite de Triton est rétrograde autour de Neptune, c'est-à-dire qu'elle tourne d'est en ouest. Les scientifiques supposent que ces anomalies s'expliquent par la capture de Triton par l'attraction de Neptune. À l'origine elliptique, l'orbite de Triton se serait peu à peu circularisée. La surface de Triton est étrangement veinée, comme la peau d'un melon. Peut-être les traces d'anciennes marées.
Charon. L'existence d'un grand satellite de Pluton, Charon, fait qu'on les considère parfois comme une planète double, d'autant plus que la distance qui les sépare est faible, seulement 17 000 km environ. À titre d'exemple, la planète la plus proche du Soleil, Mercure, en est distante de 58 millions de kilomètres. D'un diamètre de 1270 km, soit la moitié de celui de Pluton, Charon se déplace autour de Pluton en 6,4 jours, la même période de rotation que Pluton, et son orbite est dite géostationnaire, le satellite demeurant à la même place. Habituellement, dans le système solaire, les satellites d'une planète sont considérablement plus petits qu'elle. La taille de Charon, à peine la moitié de celle de Pluton, conduit certains astronomes à considérer ce satellite comme une planète à part entière, formant soit une planète double avec Pluton, soit la 10e planète de notre système solaire. Cette situation un peu floue a été tranchée par une décision d'août 2006 de l'Union astronomique internationale qui donne à Charon le statut de planète du système solaire. Pluton. Longtemps dernière planète du système solaire, Pluton est aussi la plus petite. Découverte le 18 février 1930 par Clyde William Tombaugh, elle est la plus éloignée. D'une orbite très allongée contrairement aux autres planètes, au cours de sa période de révolution de 247,7 ans autour du Soleil, elle s'approche de ce dernier jusqu'à 4,4 milliards de kilomètres ou s'en éloigne jusqu'à 7,4 milliards de kilomètres. Vu d'un télescope, Pluton présente une couleur jaunâtre. Elle serait constituée d'un noyau rocheux entouré d'une couche de méthane solidifiée par le froid, avec une température en surface de moins 230 degrés Celsius.
Le saviez-vous ? Plutôt non. L'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale s'est réunie à Prague en août 2006 pour procéder à un réexamen du nombre et de la qualité des planètes. Qualité est le mot juste, car de nouveaux critères, notamment de taille, ont été mis en place. Désormais, ne peut être planète qu'un astre en orbite autour d'une étoile, à condition de ne pas en être une et de présenter un diamètre de plus de 800 km et une masse suffisante pour que ses forces de gravité lui donnent à peu près la forme d'une sphère. Ils ont été fatidiques à Pluton, rétrogradé de son statut de planète à celui de planète naine. Dénommé désormais également une Pluton, catégorie à laquelle appartiennent Charon, et 2003 UB313.
2003 UB313. Découverte en 2005 par l'astronome américain Michael Brown, 2003 UB313, qui prendra peut-être le nom de Xena, si l'Union astronomique internationale accède à la demande faite en ce sens par ses découvreurs, est classée dans la catégorie des planètes naines. C'est la planète la plus éloignée du système solaire. Faite de glace et de méthane, son diamètre serait proche des 300 km. Située à 97 unités astronomiques du Soleil, une unité astronomique mesure environ 150 millions de kilomètres, elle tourne autour de ce dernier en environ 557 ans. La Lune. Compagne de nostalgie, la Lune n'est certes pas une planète, mais en tant que satellite unique de la Terre, et compte tenu de son rang dans notre imaginaire, il convient de lui réserver une place de choix. Sa proximité, la facilité de son observation lui confère un aspect familier. La Lune est d'autant plus liée à la Terre que non seulement elle tourne autour d'elle, mais toutes deux effectuent une révolution autour du Soleil et sa trajectoire suit celle de notre planète. Les phases de la Lune. Elles sont connues depuis la plus haute antiquité. Le changement d'aspect de la Lune est provoqué par l'absence d'émissions lumineuses. Elle n'émet pas elle-même de lumière, mais reflète celle du Soleil. En fonction de sa position par rapport à ce dernier, nous voyons dans le ciel une fraction plus ou moins grande de l'hémisphère lunaire qui est éclairée. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, l'hémisphère que nous voyons est totalement obscur. C'est la nouvelle Lune. Le premier quartier de Lune est la moitié de l'hémisphère lunaire éclairé au moment où l'angle compris entre l'axe Terre-Soleil et l'axe Terre-Lune est de 90 degrés. Si la Lune est placée à l'exact opposé du Soleil par rapport à la Terre, alors c'est la pleine Lune. Le dernier quartier de Lune désigne le décroissement progressif de la Lune.
N'oubliez pas, un bond de géant pour l'humanité. Le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 quitte le Kennedy Space Center, en Floride, avec trois hommes à son bord. Le commandant Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, qui pilote le module lunaire, et Michael Collins, le pilote du module de commande. Leur mission, se poser sur la Lune. Le 20 juillet, à 20h17, en temps universel coordonné, c'est chose faite. 6 heures plus tard, Armstrong descend du module lunaire. Premier terrien à fouler le sol lunaire, le 21 juillet 1969, à 2h56min15s, il prononce alors cette phrase restée dans les annales à l'adresse des millions de spectateurs qui assistent en direct à l'événement retransmis à la radio et, nouveauté pour l'époque, à la télévision. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.
La marée. La marée est un mouvement oscillatoire, d'avant en arrière, du niveau de la mer, provoqué par les effets de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides. L'importance de la marée varie avec la masse de l'astre et sa distance. C'est ainsi que le Soleil, dont la masse est de presque 329 000 fois celle de la Terre, exerce une attraction 2 à 3 fois moindre que la Lune, car il est beaucoup plus éloigné, plus de 149 millions de kilomètres, contre un peu plus de 384 000 kilomètres.
Le saviez-vous? Les amours tragiques de la Lune. La déesse Lune, Sélénée pour les Grecs, Luna pour les Latins, est représentée comme une belle jeune femme. Son visage est d'une blancheur si rare, si éclatante, que devant lui, tous les autres astres pâlissent. Elle parcourt le ciel sur un char d'argent traîné par 2 chevaux. Déjà amante du roi des dieux, Zeus, et du dieu Pan, Sélénée connaît un unique et tragique amour. Apercevant le berger Endymion, attirée par sa beauté extraordinaire, elle s'éprend de lui, le séduit, et lui donne de nombreux fils et 50 filles. Afin d'arracher son amant à la condition humaine, elle supplie Zeus de lui accorder la réalisation d'un vœu. L'imprudent Endymion choisit l'immortalité. Elle ferait de lui un dieu, ce que Zeus ne peut accepter. Il ne peut pas non plus renier sa promesse. Il octroie donc à Endymion une terrible immortalité en le plongeant dans un sommeil éternel qui le maintient dans l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Chaque nuit, Sélénée vient caresser de ses doux rayons le corps immobile de son amant, étendu sur une montagne, le couvre de baisers et se lamente en vain sur sa demande irréfléchie.